Radio Okapi.
Un jour, une histoire.
Magazine Un jour une histoire avec une prise de son signée Alain Goy, au micro Pamela Mounazo-Mualou. La supervision est de Jean-Marc Matuaki, au reportage Aliana Alipanagana depuis Kisangani. Nous avons justement parlé de cette ville de Kisangani et des différentes guerres qui ont marqué l'histoire de cette partie de la République démocratique du Congo, notamment la guerre de 6 jours, de 3 jours, encore d'un jour. Et pour parler de ces différentes guerres qui ont marqué l'histoire de la ville de Kisangani, nous recevrons pour vous Dismas Kitenge. Il est président du groupe Lotus, qui est une organisation des ONG de droits humains basée à Kisangani. Il est également vice-président honoraire de la Fédération internationale de droits de l'homme. Nous en parlons avec Aliana Lipanagama. Une fois de plus, bienvenue à vous qui venez à peine de vous joindre à nous sur la toile sur www.radiocapi.net. Ce fut un certain lundi 5 juin 2000, aux environs de 10h de l'est de la RDC, que les deux armées UPDF de l'Ouganda et ARP du Rwanda se sont affrontées violemment en armes lourdes et légères. Les deux armées, appuyées l'une et l'autre par leurs alliés congolais, le Rwanda par le RCD Goma et l'Ouganda par le MLC. La guerre a fait des centaines de victimes et des dégâts matériels considérables. Selon une enquête menée par les organisations de défense de droits humains basées à Kisangani, le bilan était lourd dont les stigmates et les effets collatéraux sont encore visibles dans la ville de Kisangani plus de 19 ans après. 6000 obus avaient été lancés dans la ville, plus de 400 personnes civiles tuées, plus de 300 maisons endommagées et écroulées, surtout dans la commune de la Tchopo. À cela s'ajoutent des milliers de blessés et des fracturés et traumatisés. On compte aujourd'hui un peu plus de 3000 victimes recensées dans la ville de Kisangani. Bienvenue, si vous venez à peine de vous joindre à nous, c'est votre magazine Un jour une histoire qui se poursuit et il est temps de retrouver notre invité, direction Kisangani, où nous allons retrouver aujourd'hui Aliana Alipanagama qui a rencontré Dismas Kitenge. Il est président du groupe Lotus, une organisation des ONG de droits humains basée à Kisangani. Il est également vice-président honoraire de la Fédération internationale de droits de l'homme. Il va donc nous raconter l'histoire liée à cette guerre, notamment les facteurs qui ont été à la base de cette guerre. On l'écoute, suivez.
Le 15 mars 1996, Kisangani était tombé entre les mains de l'AFDL, Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, menée sous le leadership de Laurent Désiré Kabila. Et c'est là, sans effusion de sang, Kisangani était tombé entre les mains de ces forces. Mais 2 ans après, soit en 1998, c'est un changement brusque de la situation. Il y a un mouvement insurrectionnel qui est né, une rébellion. D'abord, comment expliquez-vous ce revirement qui est arrivé justement ici du côté de l'Est pour que l'AFDL soit tombé et que c'est le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, le RCD, qui était maître de la ville de Kisangani en 1998?
Merci. D'abord, il faudra comprendre que à l'arrivée de l'AFDL à Kinshasa, l'AFDL avait à ses côtés beaucoup de militaires rwandais. Et à l'époque, d'ailleurs, c'était le général Kabarère qui était le chef d'état-major général. À un moment donné, le président de Laurent Désiré Kabila a décidé de se séparer de tous ces militaires rwandais et les autres qui étaient avec eux. C'est ainsi qu'en chassant tous ces militaires rwandais pour qu'ils rentrent chez eux, ils sont allés fomenter une autre rébellion, comme vous l'avez dit. Et le 2 août 1998, on a connu la création du RCD, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie à Goma. Lors de la création de ces mouvements, il y a le professeur Wamba Diawamba qui était le président, où on retrouvait entre autres Lunda Bululu, le Tambwe Mamba, le Mbusa Nyamwisi, le Ondekane, tous étaient dans ces mouvements, le RCD. Et comme les ex-CD ne pouvaient pas seulement rester à Goma, ils ont décidé de pouvoir, dans un premier temps, prendre toutes les villes et les provinces de l'Est pour ensuite envisager la descente sur Kinshasa. Et c'est ainsi que le 15 août 1998, la ville de Kisangani est tombée entre les mains du RCD. Et dans les troupes du RCD, on retrouvait particulièrement des militaires rwandais et certains militaires congolais. Ils sont arrivés à Kisangani le 15 août. Quelque temps après, au mois de septembre, une forte délégation du RCD est partie de Goma pour Kisangani avec Wamba Wadiaba, avec le Lunda Bululu, où ils ont tenu un grand meeting devant l'hôtel de poste de Kisangani, annonçant leur décision de foncer sur Kinshasa. Et quelques temps après, nous avons vu les militaires ougandais qui sont venus ici à Kisangani à côté des militaires rwandais pour appuyer, semble-t-il, l'armée rwandaise dans son offensive d'aller vers Kinshasa.
Mais une année après, soit du 12 au 14 1999, on a connu une guerre de 3 jours. Et après encore, on a connu, une année toujours après, le 5 mai, la guerre qu'on a appelée la guerre des 1 jour. Qu'est-ce qui a créé cette division?
Je vous l'ai dit tout à l'heure, les Ougandais sont venus en appui à l'armée rwandaise. Mais quand ils sont arrivés à Kisangani, ils s'est remarqué à un certain moment que le courant ne passait plus entre les deux armées, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. C'est ainsi que, à un moment donné, quand M. Jean-Pierre Bemba est arrivé ici à Kisangani, en fait, il est venu pour contrôler les activités de sa société commerciale comme celle à l'époque. Quand il est arrivé, les Ougandais l'ont pris de leur côté pour faire de lui un général d'armée. Et c'est ainsi que Bemba a quitté Kisangani pour aller vers les bases ouélées. Et quelques temps après, une forte délégation du RCD Goma est arrivée aussi à Kisangani. Si je ne m'abuse, ça doit être vers le mois de mars 1998. Alors, dans cette délégation, on trouvait le professeur Wamba Diawamba, on trouvait M. Mboussa, on trouvait M. Colosso qui venait de mourir. Ils sont venus dans une mission précise du RCD Goma ici à Kisangani. Mais, à la surprise générale, les Ougandais se sont organisés pour les prendre de leur côté. Et c'est à ce moment-là, vers la fin du mois de mars 1998, qu'ils vont se décider de se séparer du RCD Goma et créer ici à Kisangani ce qu'ils ont appelé, qui existe d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, le RCD KML, qui signifiait le Rassemblement Congolais pour la Démocratie Kisangani, Mouvement de Libération. Vous comprenez que s'ils ont insisté sur le cas comme Kisangani, c'est parce que ce mouvement a pris naissance ici à Kisangani. Mais les Rwandais n'ont pas pu digérer cela. Ils ont mal vu comment est-ce que, et qui était le maître de cette ville, comment les Ougandais pouvaient prendre le surplus sur eux. Mais entre-temps, étant donné que la population de Kisangani trouvait les Ougandais beaucoup plus disciplinés que les militaires rwandais, c'est comme ça que la population de Kisangani a jeté son dévolu sur l'armée ougandaise. Et la population appuyait plus les actions ougandaises que les actions rwandaises. C'est ce qui a entraîné aussi à ce que la population puisse s'attacher plus aux politiciens qui étaient du côté des Ougandais, donc les RCD-KML. Alors, les Wamba et Mboussa, quand ils sont restés ici à Kisangani, les premiers affrontements, ce n'était même pas la guerre de 3 jours. Les premiers affrontements ont eu lieu le 22 avril 1998. Parce que ce jour-là, c'était un samedi, le RCD KML voulait tenir son premier meeting devant la maison communale de la commune Mangobo. Et les gens, comme je vous l'ai dit, les gens se sont tous rassemblés là-bas pour suivre ce que Mboussa devrait s'adresser à la nation. Mais les Rwandais sont arrivés, ils ont aussi mis une barrière pour empêcher les leaders du RCD KML de tenir leur meeting.
Ils venaient de quel côté?
Ils venaient de la Sauteski. Alors, comme ils étaient accompagnés et ils étaient dans les chars, parce qu'ils se promenaient dans les chars, quand ils sont arrivés, il y a eu même quelques militaires rwandais qui étaient abattus sur place. Et le meeting n'a pas pu se tenir. C'est comme ça qu'ils ont renvoyé le meeting pour le dimanche 23 avril devant l'hôtel de poste de Kisangani. Et à cette occasion, ils ont pris une décision pour nommer le fait professeur Wale Sombo comme gouverneur.
Gouverneur magnifique, comme on l'appelle.
À lieu place de Théo Bawuti, qui était nommé par l'ex-RCD Goma. Alors, ce dimanche-là, les Rwandais sont allés aussi encercler l'hôtel de poste de Kisangani.
Pour empêcher
la tenue du meeting. Mais les Ougandais se sont organisés pour aller devant la place Asekis, où le professeur Wale a tenu son meeting. Et je vous rappelle que dans toutes ces démarches-là, tous ces gens-là ne se promenaient qu'à bord des chars ougandais. Et ils étaient tous habillés en tenim.
Mama katije tako ikoko e mama mbazi mwendwa ni kubakoko sokuwi
Retrouvons encore pour la suite de votre magazine Un jour une histoire. Aliana Lipanagama s'entretient avec Dismas Kitenge, qui est président de l'ONG Lotus, une organisation des droits humains basée à Kisangani, qui évoque à présent la guerre de trois jours.
C'était dans quel but précisément? Il voudrait quoi pour avoir l'emprise sur la ville de Kisangani? Est-ce qu'il avait un intérêt là?
Oui, je pense que le Rwandais, surtout le Rwandais, savait qu'après la prise de la ville de Kisangani par l'AFDL, c'était pratiquement le chemin qui était ouvert pour aller vers Kinshasa. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut savoir que la ville de Kisangani est le carrefour entre l'ouest et l'est du pays, même en dehors du pays. Et c'est comme ça que l'idée leur était en tête qu'en prenant la ville de Kisangani, ils pouvaient soit par le fleuve aller sur Kinshasa, ou bien alors voir comment mener des actions pour aller vers Kinshasa. Parce que comme Goma était très loin, vous vous rappellerez même qu'ils avaient tenté par Kitona et d'entrer dans Kinshasa, ça n'a pas tenu. Et maintenant, ils voulaient une nouvelle stratégie, aller sur Kinshasa à partir de Kisangani. Et les Ougandais aussi, parce qu'on parlait avec certains d'eux, les Ougandais se disaient que lors de la guerre de l'AFDL, bien qu'ils étaient avec les Rwandais, mais ils n'ont pas eu la part du gâteau qui leur revenait.
Ah, donc si je vois là, c'était la richesse, le diamant, voilà. Tout ça. La
donc, pour les Ougandais, c'était une occasion aussi de profiter à partir des richesses qu'ils trouveraient à partir de la ville de Kisangani et son hinterland, parce que vous devrez savoir que du côté de la route de Banalia, du côté de Panga, il y a beaucoup de carrières de diamants, il y a du bois aux alentours de Kisangani. Donc les Ougandais voulaient aussi se séparer des Rwandais pour qu'eux s'accaparent des richesses de Kisangani. Et c'est comme ça que ce 12 août-là, quand ils ont déclenché les hostilités, les Ougandais étaient surpris. Parce que les Rwandais avaient des cibles bien précises à attaquer.
Il y avait notamment
la résidence de l'actuel cardinal Mosengo. Il y avait l'hôtel Wagenya, qui était le centre, comme je l'ai dit, l'état-major du RCD KML. Il y avait la RTNC, qu'il fallait à tout prix qu'ils prennent. Donc, ils avaient des cibles dans les grands centres de la ville, qu'ils trouvaient stratégiques. C'est comme ça que les premières attaques ont commencé par la résidence du cardinal Mosengo, qui était d'ailleurs gardée par les soldats ougandais.
Et comment s'était déroulée alors la guerre dans la ville?
Dans la ville, c'était les Rwandais sont entrés dans le centre-ville avec l'objectif principal d'aller déloger les Ougandais et les RCD KML de l'hôtel Wagenya. Et dans les entours, passé sur l'avenue de Cocotier, au numéro 1, dans la résidence du directeur provincial de l'INPP, c'est là où se trouvait la base arrière de l'armée ougandaise, où ils avaient mis toutes les munitions et tous les effets de guerre. Alors c'est comme ça que, comme ils venaient du côté du fleuve, les militaires rwandais, accompagnés de certains Congolais, qui venaient du côté du fleuve pour entrer dans les centres-villes, donc ils tiraient à bout portant partout, pour justement déloger les excès de KML de l'hôtel Wagenya. C'est comme ça que, quand les Ougandais, l'armée ougandaise, a senti que la guerre, l'attaque était meurtrière, ils ont évacué les leaders du RCD-KML à bord des chars. Et ces chars ont traversé la ville par la route qu'on appelle la route Bouta pour entrer sur la 3e avenue à la Tchopo et prendre l'avenue du stade juste pour aller vers Djoubou-Djoubou.
La route est vers la Sauteski.
Vers la Sauteski. Pour déjà Djoubou-Djoubou, c'est là où ils vont mettre les Wamba-Diawamba, les Mboussa, à bord des pirogues pour les amener à la Sauteski.
Donc c'est la pirogue au fleuve ou bien à partir
de la rivière À partir de la rivière Tchopo. À partir de la rivière Tchopo pour les amener à la Sauteski. Parce qu'ils ne pouvaient plus tenir au centre-ville et particulièrement à l'hôtel Wagenya.
Nous voulons savoir, Pierre Kibaka, je rappelle que vous êtes le président du groupe Justice et Libération, une organisation de la société civile et de défense des droits humains. La guerre, dite la guerre de 3 jours qui a eu lieu du 12 au 14. Et après, quelle était la conséquence justement de ces affrontements?
Les conséquences sont diverses. Il y a eu d'abord des morts d'hommes, parce qu'à l'époque, nous avons recensé une centaine de morts, particulièrement dans la commune Tchopo et la Makisso. Il y a une centaine de morts que nous avions recensés et produits dans tous nos rapports, avec leurs noms et les adresses.
Il y a civil ou militaire?
Civil, comme des militaires aussi. Parce qu'on a vu quelques militaires ougandais qui étaient abattus sur le boulevard, et même devant l'hôtel Wagenya, et devant la résidence, l'ancienne résidence du cardinal Mosengo. Il y a eu beaucoup d'immeubles qui ont été détruits dans la ville. Et comme je vous l'ai dit, les vestiges sont encore là. Et la population, en général, est restée dans un traumatisme à ne pas comprendre. Vous savez, pendant 3 jours, les gens sont restés terrés dans leur maison. Et je vous informe même que, comme c'était un dimanche, il y a même certains parents qui revenaient de l'église, qui n'ont pas pu rentrer chez eux, qui ont trouvé refuge soit chez des voisins ou des personnes de bonne volonté. Parce que le dimanche, à 14h30, il y avait même un match au stade Lumumba qui avait déjà commencé. Et les spectateurs sont allés de n'importe quel côté. Et vous voyez, le dimanche à Kisangani, c'est le jour où on trouve beaucoup de loisirs, les matchs des vétérans, tout ça. Mais c'était, les gens sont partis à gauche et à droite et beaucoup ne sont rentrés chez eux que le mardi après la guerre.
Donc, 3 jours après, c'est que cette guerre a pris du 12 au 14. Nous sommes là en 1999. Qu'est-ce qui a mis fin à cette guerre de 3 jours?
La guerre de 3 jours, je crois que c'était un cessez-le-feu voulu par la communauté internationale. C'était un cessez-le-feu voulu par la communauté internationale. Et ensuite, les deux armées se regardaient en chef de faïence. Parce que, comme je vous l'ai dit, les Ougandais étaient plus cantonnés vers la forestière.
Partie sud-est.
Oui, une autre partie à la Sauteski. Mais les Rwandais se retrouvaient pratiquement au centre-ville. Ils occupaient les maisons des particuliers. Et il y avait une fine minorité de soldats qui étaient dans la rive gauche du côté du camp Lukusa. Donc il était difficile de déterminer avec exactitude là où se situait l'état-major de l'armée rwandaise à Kisangani. Tandis que tout le monde savait que l'état-major de l'armée ougandaise était à la forestière. Parce que s'il y avait des problèmes, nous-mêmes nous sommes descendus par là pour voir certains officiers ougandais et échanger avec eux. Donc c'est comme ça que les deux armées sont restées dans les qui-vive. Et à Kisangani, tout le monde sentait que à un moment donné, ça allait exploser. Parce que on voyait, même parfois, il suffisait que deux jeeps, une de l'armée rwandaise et une de l'armée ougandaise, se rencontrent, c'était des tirs de balles. Et comme les Ougandais avaient aussi pris l'hôtel Palm Beach. Donc là où les Ougandais se retrouvaient, on ne pouvait pas voir les Rwandais. Et là où les Rwandais se retrouvaient, on ne pouvait pas voir les Ougandais. Mais, de plus en plus, on sentait qu'il y avait un renfort des troupes, tant du côté du Rwanda que du côté de l'Ouganda.
Donc déjà, on sentait que ça va encore péter.
Ça va encore péter dans la ville. Tout le monde s'attendait à ça. Et ça n'a surpris personne, parce que après cette guerre de trois jours, comme je l'ai dit, il y a eu quand même des affrontements sporadiques entre les deux armées, au centre-ville comme en dehors de la ville. Donc, c'est comme ça que, en ce moment-là, après la guerre de trois jours d'ailleurs, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté la ville de Kisangani, qui sont allés dans les villages, parce qu'ils sentaient que
ça
n'était pas fini.
Ce n'était pas fini. Oui. Mais maintenant, le 5 mai 2000, encore une guerre qui s'est éclatée à Kisangani, presque une année durant.
Le 5 mai, personne n'a compris la guerre là, du 5 mai.
La guerre d'un jour.
D'un jour. Parce qu'il y a aussi un problème important à retenir. C'était les Rwandais qui contrôlaient la RTNC. Et les Ougandais avaient la Radio Liberté. Avec deux animateurs célèbres qu'on connaissait. Du côté de la Radio Liberté, c'était un certain colonel Mawa. Et du côté des Rwandais, c'était Mbuichi Bwagwa. Et toutes les deux animateurs ne faisaient que s'insulter, attiser les feux. Et d'ailleurs, même une fois, il y a aussi un élément important à lire à retenir. Une fois vers 10 heures, le colonel Mawa, sur la Radio Liberté, a demandé à tous les habitants de la ville de Kisangani de quitter Kisangani dans les 30 minutes parce que l'armée ougandaise allait bombarder la ville.
Et c'était pendant l'examen d'état, si je me souviens.
Exactement. Donc, le communiqué passait que dans 30 minutes, nous bombardons la ville de Kisangani. Et vous voyez déjà ce que ça faisait dans la tête des gens. Alors, de l'autre côté aussi, Mbuichi Bwagwa, c'était la même chose. Donc, vraiment, on était dans une situation où il fallait avoir les nerfs solides pour continuer à résider à Kisangani. Et jusque maintenant, on n'a pas encore aussi déterminé l'élément déclencheur de cette guerre d'un jour. Parce que c'était vers 5h du matin, 4h30, 5h.
Oui, ça peut s'expliquer par le sens que vous avez dit qu'il y a des renforts qui venaient de part et d'autres. Oui. C'est que chacun voudrait toujours avoir, malgré le cessez-le-feu demandé par la communauté internationale,
avoir la ville de Kisangani. Donc, tout d'un coup, vers 4h30, 5h du matin, on a entendu un coup, je crois que ça devrait être une bombe, qui est tombée au centre-ville, juste au bâtiment SEDEC. Un autre obus est tombé juste à côté de la RTNC. Donc, on a compris que c'était les Ougandais qui voulaient détruire la RTNC pour empêcher les Rwandais d'avoir un moyen de communication avec la population. C'est comme ça que les Rwandais aussi ont commencé à riposter. Là aussi, on a connu aussi beaucoup de dégâts. Il y a eu une mort d'hommes, parce que je me rappelle que du côté de Djoubou-Djoubou, parce que ce matin-là, vers 6 heures du matin, on n'avait rien à manger à la maison. On s'était dit que à Kisangani, on sait quand est-ce que la guerre commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit.
Donc il fallait mettre des provisions.
Il fallait mettre. Je suis allé même avec mon ami Bouchiri du côté de Djoubou-Djoubou pour aller acheter des légumes, un peu de poisson. Juste quand nous quittions le marché, il y a une obus qui est tombée et deux mamans sont mortes sur place. Et comme l'ère de la guerre de trois jours, c'est aussi la commune de la Tchopo qui a été la plus touchée par cette guerre d'un jour. Et cette guerre a commencé, comme je l'ai dit, aux environs de 5 heures du matin pour s'arrêter vers 17 heures. Mais il y a eu aussi beaucoup de décès.
Dans quelles conditions s'était déroulée cette guerre dans la ville, avec quel impact et quelles conséquences? La réponse est dans cet entretien que je vous propose d'écouter. C'est notre invité, il s'agit de Dismas Kitenge, président de l'ONG Lotus, au micro d'Aliena Alipanagama.
Voilà, Pierre Kibaka, la guerre des trois jours, la guerre des un jour. On parle ici de l'armée ougandaise, UPDF, et l'armée rwandaise à cette époque s'appelait APR, armée patriotique rwandaise. Mais quelle était l'action de l'armée congolaise, parce que une partie de l'armée qui était du côté des Ougandais et une autre partie du côté des Rwandais. Comment expliquer cette scission de l'armée nationale, les Congolais, de part et d'autre de ses alliés?
Vous voyez, comme je vous l'ai dit au départ, étant donné que les RCD s'étaient divisés en deux, donc il y a aussi certains militaires congolais qui étaient dans les RCD Goma, qui se trouvaient pratiquement à Kisangani, qui n'ont plus accepté de continuer avec les RCD Goma. Parce qu'avec la création du RCD KML, les RCD Goma allaient vers sa disparition. Donc il était tout à fait logique qu'ils rejoignent les RCD KML avec les Ougandais. Mais il y a aussi quelques militaires congolais qui sont restés fidèles au RCD Goma et aussi se sont attachés du côté des Rwandais. Et en plus de ça, il y avait certains anciens éléments des ex-FAS qui n'étaient plus repris dans l'armée de l'AFDL et même dans l'armée du RCD. Certains éléments de ces ex-FAS qui étaient à Kisangani sont ralliés du côté des Ougandais. C'est ce qui a fait que de tous les deux côtés, on avait aussi des Congolais qui s'affrontaient aussi. Et le malheur pour nous, c'est quoi? C'est que la plupart des fois, et ce sont plus les Congolais qu'on mettait au front, les autres restaient derrière. Et c'est comme ça qu'on a...
Donc, laisser les Congolais entrer s'affronter. Quelle leçon retenir de cette guerre-là de 3 jours ou de 1 jour dans la ville? Est-ce qu'il y a encore les stigmates ou les conséquences qui, jusqu'aujourd'hui, sont visibles, que ce soit du côté des infrastructures, que ce soit du côté de la population? Est-ce qu'il y a encore ces impacts-là qui se font sentir jusqu'aujourd'hui? Et quelles leçons nous devons tirer de ces deux guerres?
Vous savez, d'abord, à Kisangani, la population se plaint toujours. Rappelez-vous que lors de la tenue du dialogue intercongolais à Sainte-City,
en Afrique du Sud,
il y a eu une résolution qui a été prise demandant au gouvernement congolais de pouvoir dédommager la ville de Kisangani et ses habitants. Parce que, comme vous le savez, il est du devoir du gouvernement de la République de protéger les personnes et leurs biens. Mais cette résolution, jusqu'à aujourd'hui,
n'a pas produit ses effets.
En deuxième lieu, il y a la Cour internationale de la Haye qui a pris un arrêt demandant à l'Ouganda de pouvoir réparer les préjudices causés dans la ville de Kisangani par son armée. Parce que le Rwanda n'a pas reconnu la compétence de la Cour. Mais dans cet arrêt, il est question que les plénipotentiaires des deux pays se mettent ensemble pour trouver les modalités de ces réparations. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. C'est comme ça que nous continuons à réclamer que justice soit rendue dans la ville de Kisangani. Aujourd'hui, dans la ville de Kisangani, nous avons beaucoup d'orphelins, nous avons beaucoup de veuves, nous avons beaucoup de veufs qui sont restés dans la misère. Il y a des personnes qui ont perdu leur maison sans cause et qui aujourd'hui passent la nuit à la belle étoile. Donc, nous pensons qu'il est grand temps que et le gouvernement de la République et l'Ouganda puissent réparer les préjudices subis dans la ville de Kisangani. C'est comme ça que nous avons toujours plaidé pour qu'on puisse sauvegarder le cimetière qu'on appelle à Kisangani, la cimetière des martyrs de la ville de Kisangani, qui se trouve derrière l'hôpital général de Kisangani. Si ailleurs, des gens font des mausolées, des lieux touristiques, nous pensons que ces lieux aussi doivent être touristiques. Et enfin, que les politiciens congolais sachent que nous n'avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. Et si jamais il y avait des problèmes, qu'on puisse les régler entre nous.
Et j'espère que ce numéro, le nouveau numéro de votre magazine Un jour une histoire, vous a permis de comprendre ce qui s'est passé à Kisangani il y a plus de 19 ans aujourd'hui, notamment la guerre de 6 jours, de 3 jours ou encore d'un jour. Merci à Liana Alipanagama qui était allée à la rencontre de notre invité. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une organisation des ONG de droits humains basée à Kisangani, également fondateur ou vice-président honoraire de la Fédération internationale de droits de l'homme. Merci aussi à Jean-Marc Matuaki qui était à la supervision. La prise de son était de Alain Goy. Au micro, Pamela Mounazomoilou. On va donc se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro, un autre sujet. En attendant, agréable condition d'écoute de la suite des programmes sur Radio Capi. Et surtout, portez-vous bien. Au revoir.